Vérissure, tellement plus qu'une alarme.
Les cambrioleurs sont passés par le jardin. On a mis du temps à se sentir à nouveau chez nous.
Avec l'alarme Vérissure, ça n'arrivera plus. Les intrus sont détectés avant qu'ils ne pénètrent chez vous. Et en plus, nos agents préviennent les forces de l'ordre si nécessaire. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs. Offre soumise à condition. Un service opéré par Vérissure, société agréée CNAPS.
Vous écoutez
RMC. RMC Estelle Midi.
La consigne du jour, tout sauf le RN. C'est désormais la stratégie adoptée par l'Élysée, Emmanuel Macron, à l'approche du deuxième tour des élections législatives, avec un objectif, Paul, empêcher Jordan Bardella d'accéder à Matignon.
Oui Rémi, ce matin on décomptait près de 190 désistements de candidats arrivés troisième derrière un candidat Ensemble ou Nouveau Front Populaire dans une circonscription où le RN arrivait en tête. Alors si du côté de la gauche et du Nouveau Front Populaire, la démarche est quasiment automatique dans toutes les circonscriptions concernées. Emmanuel Bompard l'a annoncé ce matin sur RMC. Ils sont déjà entre 40 et 50 insoumis à s'être désistés. Du côté de la majorité présidentielle, certains doutes subsistent. Alors, dimanche soir, pour rappel, Emmanuel Macron avait appelé à un large rassemblement clairement démocrate et républicain contre le RN. Quelques minutes plus tard, Gabriel Attal appelait lui tous les candidats à se retirer, même au profit de candidats insoumis. Finalement, du côté d'Ensemble, c'est le cas par cas qui semble être privilégié. Une attitude bien évidemment dénoncée par le Rassemblement National. Hier soir, Jordan Bardella dénonçait une alliance un peu contre nature entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Une alliance surprenante, une alliance du déshonneur dans un sens comme dans l'autre. Ce matin, c'est Marine Le Pen qui dénonçait des désistements comme un mépris des électeurs, affirmant aussi que cette élection est une émancipation du peuple. Alors combien de triangulaires subsisteront ? Réponse ce soir à 18h.
Tout sauf Bardella à Matignon. Emmanuel Macron est-il irresponsable ? Vous nous appelez au 3216. Amélie.
Moi, ça me donne un peu le sentiment du pompier pyromane qui aurait plus d'eau et qui sait plus comment éteindre le feu. Je parle pas du fond, je parle vraiment de la forme. Soit, effectivement, le RN ne doit pas gouverner du feu qu'il a allumé lui-même, d'où le pompier pyromane. Donc, le pompier pyromane qui a plus d'eau. Donc, soit le RN ne doit pas gouverner, et auquel cas, il faut se désister partout. Et en fait, il n'y a pas de cas par cas. La ligne, elle doit être claire. Et en fait, elle n'est pas si claire que ça, parce que tout le monde ne la suit pas. Et d'ailleurs, ça n'a pas été dit de manière aussi claire. Soit alors, il décide de redonner la parole au peuple. C'est comme ça qu'il a justifié la dissolution. Et auquel cas, il y a des désistements nulle part. Et encore une fois, je ne parle pas du fond. Je parle juste de la ligne et d'afficher clairement ce vers quoi on veut aller et ce qu'on pense, et ça me semble pas être le cas aujourd'hui. Je trouve ça vraiment dommageable.
Comment tu expliques qu'en une semaine de temps, on soit passé du nini, avant le premier tour, c'était ni RN ni LFI. Aujourd'hui, c'est ni RN.
Tout simplement parce que je pense, je ne sais pas comment c'est possible, comment des stratèges politiques arrivent à ne pas anticiper les résultats d'élections, mais je pense qu'ils n'ont pas anticipé cette victoire relative, dirons-nous, du RN au premier tour des législatives.
Daniel Riolo, l'attitude aujourd'hui d'Emmanuel Macron est-elle irresponsable ?
En tout cas, il est responsable de tout. Il est responsable de ce marasme, il est responsable de cette France qui marche sur la tête, de cette désolation absolue, de l'indignité de tous ces politiques qui, en fait, depuis une semaine, ne parlent pas de programme politique, mais parlent simplement, comme si ça suffisait à faire un programme, d'être anti-RN. Donc c'est ça le dénominateur commun de gens qui se détestent, qui se sont tirés dessus pendant des années. Le spectacle le plus absolu de l'indignité étant sur les épaules d'un ancien président, parce qu'un ancien président, ça devrait avoir quand même une stature. Donc évidemment, je pense là à François Hollande, qui finalement fait alliance directe, indirecte, mais néanmoins, ça reste une alliance avec un fichier S, lui qui a combattu, qui a été au gouvernement quand on a eu les attentats terroristes en France. François Hollande s'associe à un candidat ouvertement pro-Hamas. De loin, c'est pas dans la même circo, certes, mais tous ces gens-là sont en train de se combiner entre eux. Le spectacle depuis une semaine, c'est des arrangements, des combinaisons, mais où sont les convictions? Où sont les lignes directrices? Mais moi, je m'en fous de tous ces arrangements. Moi, je m'en fous. Est-ce qu'on pourrait avoir, je sais pas, un parti qui dit, moi, je suis sur cette ligne. Et si on va avoir 40 députés, on va en avoir 40. Si on en a 60, on en a 60. Si on en a 10, on en a 10. Mais au moins, on est fidèle à des convictions. Et on va pas s'associer négocier avec n'importe qui au prétexte qu'il faut faire barrage au grand méchant loup. Parce que ça fait 20 ans, moi, que j'entends que le seul programme pour une tonne de politique dans ce pays, c'est le grand méchant loup. Sauf que le grand méchant loup, depuis 2002, il n'a cessé de progresser. Et il va probablement, à cause de tous ces arrangements et ces combines, accéder au pouvoir. Alors tous ces gens crient au loup, crient au loup, crient au loup. En Italie, ça n'a pas empêché Meloni d'accéder au pouvoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Elle gouverne, ça passera. Peut-être qu'elle perdra le pouvoir, peut-être qu'elle continuera à l'avoir. Mais tous ces gens-là qui auront fait toutes ces combines et ces arrangements, avec quelle face ils vont revenir devant les Français plus tard? Mais qui? Et j'ai parlé des arrangements et des combines, là, de Hollande et de pas mal de personnalités à gauche. Mais à droite, parce que le premier, ça a été Ciotti quand même, qui a rompu avec la tradition de son parti, avec l'histoire de son parti. Mais on les compte sur les doigts d'une main, finalement, ceux qui sont restés dignes et fidèles. Parce que dans la foulée, il y a eu Glucksmann qui, alors lui, là, mais alors il est. Mais c'est même pas dans le marigot qu'il a sombré.
Non, mais y compris la majorité présidentielle.
C'est dans la boue. Il ne reste finalement, très objectivement, il ne reste que Copé, Wauquiez et les LR qui étaient au gouvernement. Darmanin, Le Maire, qui assistent à ce spectacle. Et eux, je les trouve plutôt digne dans ce bal des horreurs.
Je veux juste rappeler que la majorité présidentielle a fait campagne quasi exclusivement contre LFI avant le premier tour, et maintenant ça devient une campagne contre Le Maire. C'est incompréhensible.
On a l'impression de... C'est une impression, mais on a l'impression d'avoir un joueur qui est en train de jouer et qui, à un moment donné, il balance une carte et ça fonctionne pas, il en cherche une autre, il en balance une autre.
Enfin, mais dans quel but, Rémi? En fait, quel est le but de ça? Est-ce qu'on peut essayer de, Pierre, comprendre s'il faut un but dans la vie quand
Pierre Rondeau.
C'est quoi? C'est de défendre un
j'ai
Marocain?
Du mal à distinguer.
C'est un steak. Cynique.
Des fois, être cynique, et je voudrais pas jeter l'opprobre sur la vie politique française, mais je suis désolé. Daniel le rappelait, ça fait 20 ans, on pourrait même dire ça fait 40 ans que ça fonctionne comme ça, voire ça fait depuis la 5e République que ça fonctionne comme ça. C'est un jeu politique. C'est un jeu d'alliance, c'est un jeu de coalition.
On peut ne pas accepter ça. Daniel, on a le droit d'avoir des convictions dans la vie.
J'ai envie d'y croire et j'ai envie d'espérer cette défense des convictions et une quête effrénée pour des valeurs, pour des desseins forts. Je te rejoins là-dessus. Malheureusement, soyons très pragmatiques. Donc, peut-être très cynique, la vie politique française, parce qu'on a ce fonctionnement de la cinquième, parce qu'on a ce système qui t'oblige, après le premier tour, à soit te maintenir en triangulaire, soit laisser passer, soit te retirer au profit d'un camp qui était là le total opposé de ce que tu étais. On a des LFI qui se retirent.
Tu peux pas, Pierre, aller vers des gens qui sont l'opposé de ce que tu es.
Désolé,
mais comment,
Daniel,
dans la vie, tu peux...
Daniel,
dans la vie, tu peux pas te comporter comme
ça. Tu as des convictions, tu as des valeurs, et
mais
c'est
tu te
tout
retires,
à ton honneur.
Pierre, si toi, tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, c'est pas compliqué. Au lieu d'aller associé, mais reste chez toi. Moi, honnêtement, si dans ma circo qui a été un bordel sans nom, dans ma circo, tu te retrouves avec trois LR, un ancien LR qui était passé chez Renaissance, mais au bout d'un moment, t'es pas content de l'offre.
Et avec certains qui mettent LR sur leurs affiches.
Mais ne va pas t'associer avec le diable, reste chez toi.
Tout ce qui va compter, c'est tout sauf le diable, si on le
tout sauf Bardella à Matignon.
Il est là où chacun veut le voir.
Tout sauf Bardella à Matignon. Emmanuel Macron est-il irresponsable? Vous pose la question et on va au 32-16 retrouver Mohamed. Bonjour Mohamed.
Ouais, bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est dans le Val-de-Marne, c'est ça Mohamed?
C'est ça.
Bon, Emmanuel Macron est-il irresponsable?
Ah, il est responsable de A à Z. C'est-à-dire, je m'explique, moi, je suis électeur de gauche, il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'il fasse ça, pourquoi pas. Mais limite, surtout qu'il se taise. Je m'explique, le type, il décide de dissoudre l'Assemblée. Personne lui a demandé de faire ça, il le fait. Très bien. Tu prends cette décision, tu vas jusqu'au bout de ton truc. Tu dis, je rends la parole au peuple. Donc, ferme ta gueule. Mais ferme-la, tout jamais. Vraiment. C'est-à-dire, à un moment donné, tu laisses les gens faire ce qu'ils ont à faire. Et puis voilà. Après, pour les désistements, pas désistements, etc., on connaît les règles de la 5e République et un petit peu la focuserie d'accord de ce système. Mais moi, je connais pas de système parfait dans ce bas monde. Donc voilà, et c'est le système, il a l'image de l'humanité qu'on porte. Donc voilà, ça, c'est autre chose. Et après, chaque électeur vote en connaissance de cause. Et moi, j'en ai marre qu'on dise que je me désiste, donc l'électeur, c'est un mouton, il va faire ce qu'on va lui demander de faire. Non, l'électeur, il est libre, il a une conscience, il est capable de choisir ou de ne pas choisir. Voilà,
c'est intéressant ça. C'est intéressant ce que dit Mohamed en plus, parce que c'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière ici. C'était vendredi dernier, parce qu'on savait que la participation serait importante. Et on avait posé la question, est-ce qu'il faut remercier Emmanuel Macron de donner la parole aux Français? Puisque le soir du 9 juin, il dit « je vous fais confiance, j'ai décidé de vous donner la parole » et depuis ce moment-là, on ne cesse d'avoir des injonctions de part et d'autre.
Il y a une crédibilité à la parole d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Je parle vraiment depuis les européennes et depuis la dissolution. On ne cesse de rappeler ses erreurs d'anticipation. Mmh. Effectivement, tu parlais des stratèges qui n'ont pas anticipé. Mmh. Voilà, on peut se poser la question de la crédibilité. Alors, j'irai pas remettre en cause son intelligence, hein, loin de là. Mais aujourd'hui, sa parole est quelque peu galvaudée.
Merci à Mohamed d'avoir été avec nous. C'est court, mais vous êtes nombreux. Je vais donner la parole à un maximum d'entre vous. Mohamed qui nous appelait depuis le Val-de-Marne. Là, on va en Nice. Retrouver Sam. Bonjour Sam.
Bonjour à tous et à toutes.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Sam, aujourd'hui c'est la nouvelle stratégie de l'Elysée depuis quelques heures, c'est tout sauf le RN. On anticipe peut-être un même plus qu'un barrage anti-RN, c'est un barrage Bardella, pas de Bardella à Matignon, on va essayer de faire comme ça. En tout cas c'est la stratégie de l'Elysée. Est-ce que ça vous choque? Vous trouvez ça irresponsable?
Non, tout. Moi, on dit tout sauf Bardella.
Ah, attention, on vous entend mal. Parlez bien devant votre téléphone,
oui,
Sam.
Oui. Ouais. Non, je disais non. Alors Bardella, c'est juste parce que c'est lui la tête d'affiche. Hein. C'est pas tout contre Bardella, c'est tout contre le RN. Mm. Et non, c'est irresponsable. Au contraire. Et d'ailleurs, je vais dire, et aux électeurs, même aux personnes indécises qui nous écoutent, le RN, c'est un parti qui prône une certaine, un certain respect des droits, hein, de l'ordre et de tout cela. Bon, ça reste le seul parti en France qui aujourd'hui est jugé extrême par le Conseil d'État.
D'ailleurs,
les règlements françaises, les juges français, les décideurs. Regardez, et je n'ai pas LFI dans mon cœur personnellement, néanmoins, ils disent l'extrême gauche, non, il n'y a qu'un seul extrême en France, et c'est l'extrême droite. Donc quand un parti
dans la coalition Nouveau Front Populaire, il y a quand même le NPA aussi.
Le NPA est quand même considéré extrême gauche, pas LFI dans le Conseil d'État, mais le NPA si.
Ok.
Et c'est quoi cette histoire?
Attends, Daniel, on laisse parler Sam.
Qu'est-ce que ça veut dire?
On laisse
parler l'État qui dit qui est qui, mais dans quel pays on est, ça aussi?
Sam,
mais ça aussi, c'est grotesque ça.
Alors Daniel, tu n'entends pas bien. Là, je donne la parole à Sam. Excuse-moi.
Non, mais c'est, voilà, pour moi, le propos, il est là. Le propos, il est qu'il y a des baromètres, il y a des règles, il y a des curseurs qui permettent de déterminer si un parti est un parti qui est extrême ou pas. Ce que prône l'extrême droite, ce que prône le Rassemblement National, le Front National, depuis sa fondation, de toute son histoire. Je sais bien que les médias, vous avez détraumatisé ça depuis des années.
Oui, maintenant,
c'est
bien
sympa
sûr,
de les avoir à l'antenne. Néanmoins, ça reste un parti qui prend ce qu'il prend. Et d'ailleurs, on voit,
en même temps,
ce que disent leurs nouveaux candidats.
Ouais. Hein, on discute tranquillement. On discute tranquillement, Sam, mais ce qui est bien, c'est aussi que quand on entend des responsables du RN, ils nous accusent de les avoir diabolisés pendant des
années. Excuse-moi, Sam, mais il faut quand même noter quelque chose. La France n'est pas le seul pays en Europe où les idées du Rassemblement National sont en augmentation. J'entendais déjà ça, premier point, il faut le noter, avant de pleurer sur cette augmentation. Il y avait un député Renaissance sur BFM qui, la semaine dernière, arrive, se pose et dit... De toute façon, il faut dire que le constat sur des problèmes qui préoccupent des Français posés par le RN sont réels. Mmh. Ok ? Et donc, ça fait depuis 2002 cette histoire-là, même avant, hein, mais 2002, comme il y a eu le deuxième tour, c'est une date un petit peu symbolique. Mmh. Et donc, quelles ont été les réponses derrière ? Ça a été Sarkozy qui, comme seule réponse, lui qui a réussi à faire redescendre le RN à 8%, la seule réponse à la sécurité, à ces problèmes-là, c'est le Karcher et casse-toi pauvre con. Ça a été ça les réponses d'Hollande ensuite, les réponses de tous les gouvernements.
On serait pas
les réponses aux préoccupations des Français. On Daniel, ne fait que diaboliser.
On est d'accord.
On ne fait que
Daniel,
diaboliser.
On est d'accord.
Et dire anti-RN.
S'il y avait eu
mais c'est pas une politique.
Daniel,
ça.
On
c'est
est
pas
d'accord.
Un programme, ça.
Daniel, on est
c'est
d'accord.
Pas un programme,
et heureusement
ça.
Que t'es fatigué, sinon c'est moi qui le serais. on est d'accord. Et ce n'est pas un jugement de valeur quand je dis ça, mais on n'en serait pas dans cette situation actuelle de crise quand même politique s'il y avait eu des réponses apportées.
Évidemment.
D'accord. Sam, merci d'avoir été avec nous au 32-16. Arnaud Benedetti nous rejoint. Bonjour Arnaud Benedetti.
Bonjour à vous.
Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de « Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire ?» point d'interrogation, paru aux éditions Michel Lafond. Arnaud Benedetti, ce n'est pas une vue de l'esprit, je ne pense pas avoir rêvé. Il y a 10 jours, le chef de l'État prônait le ni LFI, ni RN pour le premier tour. Désormais, c'est pas de RN tout court. À quoi joue Emmanuel Macron ?
Bah écoutez, il essaye tout simplement d'éviter, et on voit quelle est la stratégie derrière, l'accès de Jordan Bardella à Matignon. Alors la difficulté de sa stratégie, elle est double d'abord. Ce sont bien évidemment les contradictions que vous venez de pointer, parce que, si vous voulez, on ne peut pas dédiaboliser On ne peut pas dédiaboliser un adversaire un jour.
Diaboliser LFI, LFI la semaine dernière et aujourd'hui.
Donc il y a un problème de cohérence qui se pose manifestement et qui peut en effet parfois poser des problèmes aux électrices et aux électeurs. Ça c'est le premier point. Mais en fait, quel est l'objectif? L'objectif c'est surtout pas tant de contenir la poussée du Rassemblement National, quoi que c'est ça l'objectif. C'est surtout peut-être d'empêcher la possibilité de former un gouvernement.
Donc d'empêcher le RN d'avoir la majorité absolue.
Bah, exactement, parce que le vrai sujet, c'est que aujourd'hui l'objectif il est d'une certaine manière assez peu ambitieux du côté du président de la République au regard de l'épreuve électorale à laquelle il est confronté. Il sait très bien que de toute façon il y aura à nouveau une poussée du Rassemblement National en nombre de députés au second tour. Toute la question est en effet de le cantonner à une majorité relative. Et on sait depuis plusieurs semaines maintenant que le Rassemblement National a annoncé que dans le cadre d'une majorité relative, il pourrait très bien ne pas vouloir accéder à Matignon. Après, la question est de savoir quel est l'étiage de cette majorité relative.
Arnaud, ils en reviennent un petit peu encore. Hier, Sébastien Chenu a dit même si on a une majorité relative, on pourra essayer de trouver peut-être des alliances. Ouais. Ce matin, c'est Marine Le Pen qui dit oui. Bon,
C'est l'étiage de cette majorité relative. Si vous êtes à 250, c'est pas la même chose.
Évidemment que
vous êtes
190.
À 270 ou 275, où vous allez peut-être aller rechercher des alliés potentiels, notamment chez les LR qui ont décidé de ne pas suivre Monsieur Ciotti. Donc ça, c'est une possibilité. Le problème, c'est que le risque d'Emmanuel Macron, c'est in fine de se trouver avec un pays ingouvernable.
Mais c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander, Arnaud Benedetti. Si le RN n'a pas suffisamment d'élus et n'accepte pas de former un gouvernement, il se passe quoi?
Ah ben vous savez, c'est extrêmement difficile. Il peut très bien ne pas y avoir de majorité du tout à l'issue du soir du second tour, ce qui serait une situation totalement, en effet, exceptionnelle sous la Ve République, puisque la Ve République a été bâtie pour produire justement des majorités qui permettent de gouverner dans la durée et dans la stabilité. Là, en l'occurrence, on se trouverait dans une situation institutionnelle qui n'a pas été de fait prévue par les institutions de la Ve République. Alors, on parle de gouvernement technique. Mais un gouvernement technique, si vous voulez, un gouvernement technique, de toute façon, il sera quand même soumis à un moment donné à l'approbation du Parlement, ne serait-ce que pour faire voter le projet de loi de finances. Quand vous n'avez pas de majorité, c'est extrêmement difficile, que vous le vouliez ou non, de faire passer un projet de loi de finances. Donc on voit qu'aujourd'hui, la stratégie d'Emmanuel Macron est une stratégie très risquée. Elle est doublement risquée. D'abord, l'alliance avec LFI peut, en effet, l'alliance qui n'est pas une alliance, les désistements en tout cas avec LFI, peuvent d'une certaine manière troubler une partie d'abord de l'électorat notamment macroniste qui n'a pas du tout envie d'aller forcément faire barrage au Rassemblement National en votant pour un candidat de LFI, en tout cas un candidat de LFI, voire un candidat du Front Populaire, ça c'est une chose. On peut avoir une déperdition importante de voix au deuxième tour. Et puis l'autre problème, c'est que quand finalement vous faites de l'ingouvernabilité l'obstacle à l'accession du Rassemblement National au pouvoir, vous prenez le risque tout simplement de se faire dysfonctionner les institutions de la Ve.
Une dernière question, Arnaud Benedetti, on est pris par le temps, mais une dernière question. Je ne sais pas si c'était, certains ont émis l'hypothèse, je ne sais pas si c'était le but d'Emmanuel Macron lorsqu'il a décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Certains ont dit, c'est le chaos, c'est la théorie du chaos. Mais je ne sais pas si c'était son idée à l'origine, mais est-ce qu'on peut y arriver?
On n'en est plus très loin. On n'en est plus très loin, en l'occurrence, vu l'état de tension du débat politique et vu l'issue très, très incertaine des urnes. Il est évident que si encore une fois, au soir du 7 juillet, on n'est pas capable de disposer d'une majorité, ou en tout cas dans la semaine du 7 juillet, il aura rajouté la crise institutionnelle à la crise politique. Et il en sera, bien évidemment, le principal responsable. Donc, on est vraiment dans une situation qui est, encore une fois, tout à fait unique sous la Ve République. Après, reste à savoir s'il peut y avoir une majorité relative. Ça sera, là aussi, quelque part, le résultat de dimanche qui nous le dira.
Merci beaucoup, Arnaud Benedetti, d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de « Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire » aux éditions Michel Lafon. On vous a posé la question, tout sauf Jordan Bardella à Matignon, Emmanuel Macron est-il irresponsable, Paul?
Eh bien, c'est un oui massif. 84% de nos auditeurs jugent le président responsable.